Et voici le journal présenté par Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Benoît, bonjour à tous. L'armée syrienne affirme qu'un cessez-le-feu sera appliqué dans la province d'Idleb, dernier bastion majeur de l'opposition en Syrie. Nous rejoindrons dans un instant notre correspondante dans la région.
L'ONU change la direction de son agence pour les réfugiés palestiniens. Une enquête interne de l'UNRWA fait état de mauvaise gestion et d'abus d'autorité. Nous y reviendrons.
Nous essaierons ensuite de comprendre pourquoi les États-Unis se retirent d'un traité sur les forces nucléaires, traité signé avec la Russie notamment. Doit-on y voir le début d'une escalade militaire ? Question que nous poserons à une spécialiste en stratégie.
Et puis dans ce journal, nous nous pencherons sur les compteurs électriques Linky posés par Enedis. Devant la justice, des centaines de personnes se plaignent d'une électrosensibilité.
La Syrie dit accepter un cessez-le-feu sous conditions dans la région d'Idleb, dans le nord du pays. Hier ont débuté des pourparlers à Astana et c'est dans ce cadre qu'une trêve a été proposée sous l'égide non plus de l'ONU, mais de la Russie, la Turquie et l'Iran. Alors que faut-il en penser, Mélanie Wey?
Les armes devraient se taire dans le nord-ouest de la Syrie. Damas s'est engagé hier à instaurer une trêve à Idlib, la dernière enclave rebelle du pays, où, soutenue par Moscou, le régime syrien mène depuis 3 mois un pilonnage intensif pour déloger, soutient-il, les djihadistes d'Ayat Tahrir al-Sham, qui en janvier ont pris le pas sur les rebelles modérés. L'accord de cessez-le-feu est cependant soumis à conditions, a précisé Sana, l'agence officielle du pouvoir syrien. Il sera respecté sous réserve seulement du maintien de la zone de désescalade, délimitée en septembre à Sotchi par Moscou, le parrain de Damas, et Ankara, le soutien des insurgés modérés. Sur place, sur les 3 millions d'habitants du dernier bastion rebelle, peu croient en l'accalmie promise par Damas. Comment peut-on faire confiance à un régime qui tue quotidiennement femmes et enfants ? A réagi Farid, jeune activiste de la province d'Idlib, contacté sur les réseaux sociaux. Depuis fin avril, plus de 400 000 personnes ont été déplacées et 770 civils au moins ont perdu la vie sous les bombes du pouvoir syrien et de son protecteur russe.
Et soulignons par ailleurs que l'ONU a ordonné hier une enquête sur les frappes aériennes qui touchent des sites civils en Syrie, notamment des hôpitaux dans le nord-ouest du pays. En Palestine, l'agence de l'ONU en charge des réfugiés est mise en cause pour mauvaise gestion, si bien que son directeur a été limogé hier soir. Un rapport évoque en effet des agissements à caractère sexuel inapproprié, du népotisme au sein de cette agence, l'UNRWA, ainsi que des discriminations, Marine Vlahovic.
Il ne s'agit pour l'instant que d'allégations et pas de faits établis, se défend la direction de l'UNRWA, pourtant gravement mise en cause dans un rapport interne. Ce dernier accuse Pierre Krahenboul, son commissaire général, d'avoir noué une relation avec sa conseillère, nommée à ce poste grâce à un processus extrêmement rapide. Il est aussi accusé de faire preuve de népotisme, alors que d'autres dirigeants sont épinglés pour abus d'autorité. De quoi ternir la réputation de cette agence onusienne, créée en 1949 et exclusivement en charge des Palestiniens. Son existence même est contestée par les États-Unis et Israël, estimant que l'UNRWA est le problème et non la solution. L'administration Trump a cessé de la financer l'année dernière. Affrontant une crise financière sans précédent, l'agence onusienne a entamé une course au financement pour maintenir les services de santé et d'éducation offerts à plus de 5 400 000 réfugiés. Des efforts mis à mal par la publication de ce rapport accablant. À la suite de ces révélations, la Suisse et les Pays-Bas, deux bailleurs importants, ont décidé de suspendre leurs contributions additionnelles jusqu'à ce que l'ONU fournisse une réponse satisfaisante. De son côté, l'UNRWA refuse de s'expliquer tant que l'enquête est en cours.
Marine Vlahovic, correspondante de RFI et de France Culture à Jérusalem. Donald Trump choisit la voie de l'escalade dans la guerre commerciale avec la Chine. Il annonce qu'à compter du 1er septembre prochain, Washington va surtaxer une nouvelle liste de 300 milliards de dollars de produits chinois supplémentaires. Tous les produits chinois aux États-Unis seraient alors surtaxés. Cette annonce a immédiatement fait réagir les marchés financiers hier soir. Donald Trump qui remet aussi en cause les traités militaires passés avec la Chine et avec la Russie. Les États-Unis sortent officiellement aujourd'hui du traité sur les forces nucléaires intermédiaires qui avait été signé en 87. Ce traité prévoyait d'éliminer tous les missiles à moyenne portée détenus par les armées de ces grandes puissances. Faut-il craindre aujourd'hui un réarmement général ? Emmanuel Maître est chercheuse à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Pas tout à fait, dit-elle.
Ce qui est sûr, c'est que le contexte stratégique est mauvais. Il y a des tensions entre la Russie, les États-Unis, avec la Chine également. Donc on a plutôt une tendance à avoir des États qui vont développer des programmes militaires qu'ils considèrent comme nécessaires à leur sécurité. Mais on n'est pas dans une logique de course aux armements qui serait complètement effrénée, qui n'aurait pas de sens véritable d'un point de vue militaire. On est quand même sur des budgets militaires à la fois aux États-Unis d'ailleurs et en Russie qui sont sous contrainte globale. On ne peut pas dépasser des volumes. La Russie, évidemment, a des problèmes budgétaires qu'on connaît, mais les États-Unis ont aussi beaucoup d'autres priorités. Cette sortie du traité FNI, ce développement de nouvelles armes, ça traduit un environnement stratégique qui est dégradé, ça c'est sûr, mais sans pour autant forcément faire renaître ces phénomènes de course aux armements qu'on avait dans les années 1970.
Emmanuel Maître interrogé par Juliette Jech. La Russie encore, qui compte de plus en plus de personnes en difficulté financière. Vladimir Poutine souhaite diviser par deux la pauvreté dans son pays d'ici 2024, mais il enregistre au contraire une hausse de 5000 nouveaux pauvres pour cette année, Élise Delève.
Près de 21 millions de Russes vivent dans la pauvreté, soit 14,3% de la population selon l'Institut Rostat. Et ce ne sont plus uniquement les couches les moins aisées et les retraités qui sont concernés. Les classes moyennes souffrent aussi. La part des Russes qui considèrent appartenir à cette classe a diminué de 60 à 47% en 5 ans. Les conditions de vie se durcissent. 12% des citoyens n'ont pas de quoi se nourrir convenablement. Presque autant ne peuvent pas se payer de médicaments vitaux. Alors que les hivers russes sont longs et rugueux, plus d'un tiers des foyers avouent ne pas pouvoir acheter de nouvelles paires de chaussettes à tous les membres de la famille à chaque saison. Vladimir Poutine compte résorber cette pauvreté grâce à ses projets nationaux, des constructions massives de routes, hôpitaux et écoles. Pas sûr que cela soit si efficace. La hausse de la TVA de 18 à 20% depuis janvier, ajoutée à la baisse des revenus des Russes, ne suffira pas à améliorer la situation économique. La publication de ces chiffres, en pleine vague de contestations politiques, a beaucoup fait réagir en Russie. Certains ironisent, 20 millions de pauvres en 20 ans de règne. Vladimir Poutine détient en effet le pouvoir depuis 1999, lorsque Boris Yeltsin le nomme président du gouvernement.
Ces précisions étaient signées Élise Delève.
7h07 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. En France, maintenant, les dégradations de permanence La République En Marche se poursuivent.
Une quinzaine ont été visées depuis début juillet, une quinzaine de permanences, dont deux ces dernières heures, à Paris avec des locaux tagués et à Toulouse où les fenêtres ont été murées. Il s'agit des permanences des députés Stanislas Guérini et Corinne Vignon. À chaque fois, la validation du CETA, le traité commercial avec le Canada. À chaque fois, cette validation par les députés est critiquée. Nice, Marseille, Amiens, Poitiers ou Paris, les appels à se rassembler demain pour rendre hommage à Steve Maia-Canisso se multiplient. Steve Maia-Canisso, cet animateur mort dans la Loire à Nantes le soir de la fête de la musique après une charge de la police. Et à Nantes, en revanche, la préfecture de la Loire-Atlantique a interdit toute manifestation demain midi dans le centre-ville. Elle craint des violences. C'est une décision très attendue par les opposants au compteur électrique Linky. Ils évoquent des dangers sur la santé à cause des ondes électromagnétiques et ils parlent d'un dispositif qui viole leur vie privée. Saisi par 430 personnes, le tribunal de Nanterre doit se prononcer aujourd'hui à ce propos. Alors qu'en début de semaine déjà à Tours, la justice avait donné raison à 13 plaignants électrosensibles. La décision du jour pourrait donc s'inspirer, Maxime Fayol, d'une jurisprudence naissante.
Enedis a déjà été condamné à 4 reprises par la justice à retirer des compteurs Linky ou à renoncer d'en installer par respect du principe de précaution. À chaque fois, les plaignants et leurs avocats ont fourni des certificats médicaux qui attestent des maux de tête ou bien de picotement. Pour eux, l'origine est très claire, ce sont les ondes électromagnétiques du Linky qui sont en cause. Et à chaque fois, la justice a reconnu le lien de causalité direct entre le compteur et ses troubles physiques. Enedis conteste particulièrement ce point et interjette appel à chaque décision, mais se conforme néanmoins à la sanction et retire ses compteurs Linky. Si l'argument médical est pour l'instant retenu par certaines juridictions, les avocats restent prudents sur les chances de succès de l'audience d'aujourd'hui. Ils continuent surtout de se battre sur un autre volet, celui de la protection de la vie privée. Il faut dire que ces compteurs intelligents transmettent des informations personnelles et cela pose problème pour de nombreux plaignants. Ils représentent d'ailleurs 2/3 du contentieux contre Enedis. Pour l'instant, Toutes les procédures qui ont été traitées l'ont été en référé et aucun tribunal n'a voulu trancher cette question en urgence. Il faudra intenter de nouveaux recours au fond. Les avocats et les plaignants s'y préparent.
Maxime Fayol, quelques averses sont encore attendues sur l'est de la France ce vendredi. Le ciel partout ailleurs ne sera changeant entre nuages et soleil, comme hier finalement, avec des températures toujours estivales. 21 degrés ce matin à Lille, 23 à Rennes et Paris et déjà 29 à Marseille.